C'est une selle. C'est une selle dans une salle, seule. La celle-ci, bah, celle-là. La celle-là, seule, ce serait-elle. C'est une selle en soie. Une selle en soie. J'aurais dit en cuir. En cuir de chameau, c'est ça. Pas en peau de chamois. Etc, etc.
Tu es Youn et tu es textipulateur.
Je textipule, en veux-tu, en voilà. Alors un textipulateur, bon, c'est un mot inventé, hein, de par le fait. C'est quelqu'un qui pourrait manipuler le verbe, par exemple. Parce que le verbe, c'est une pâte malléable, modelable.
Là, on est dans une des salles du Musée des Beaux-Arts, qui est toute tapissée de bleu. Il y a une autre pièce là-bas, qui est toute en rouge. Les autres au fond sont en blanc. Il y a des tableaux au mur, les cadres sont dorés.
On va essayer de faire résonner les œuvres, les objets par rapport aux toiles de l'expo permanente. Là, par exemple, on arrive dans une salle avec des sculptures. Oui, il est question de mise en scène. On propose une déambulation poétique et musicale. Et c'est du spectacle vivant. Alors, on n'est pas dans la configuration classique scène-salle, mais il est quand même question de mettre en scène des textes.
Un chameau ou une selle ?
Une chamelle ou un seau. Bon, faut appeler un choix, un choix. Le fait de proposer une action comme ça dans le musée, avant même de parler du contenu, ce qu'on va proposer, juste le fait d'avoir des gens qui parlent à voix haute, qui déclament des textes, et puis d'avoir de la musique qui est jouée, c'est super intéressant. Il y a un super décalage. Le musée, c'est quand même un lieu assez sacralisé, où on fait le silence, où on marche à pas feutrés, on chuchote. Il y a des farfadets qui se mettent à créer des choses étranges. Faut se poser la question du comment dire. Ça implique aussi la question du corps dans l'espace, le corps qui porte la voix, laquelle porte le texte.
Comment tu t'appelles ? Héloïse.
Il y a des feuilles devant toi, oui. Donc tu as écrit un texte, mais très loin.
Je suis en train d'essayer de le découper, de mettre des pauses en fait, des temps comme ça, pour que le musicien Mourad du coup fasse des petites ponctuations musicales. C'est trop conséquent pour que ce soit dit tout d'un coup comme ça. Du coup ça va permettre de rythmer un peu et de faire des petites pauses. On a choisi nos objets en fonction de notre inspiration, etc. J'ai créé un texte en rapport avec un étui de calame. Comme le calame, c'est une sorte de stylo, on va dire ça comme ça, c'est ça qui écrit les histoires. Et du coup, j'ai listé plein d'œuvres littéraires que les gens, en général, connaissent, des choses qui n'ont rien à voir entre elles, comme par exemple Oedipe Roy et Le Petit Chaperon Rouge. Et à partir de ça, justement, j'ai entremêlé toutes ces histoires pour faire comme si le calame racontait son vécu, son histoire, qu'il était persuadé que ces histoires-là, il les a vraiment vécues, alors qu'en fait, il a fait que les écrire. On peut dire ça comme ça.
Ce qui m'intéresse finalement, c'est comment on va s'emparer de cette thématique pour ensuite aller ailleurs. Et c'est plus de travailler autour de l'ailleurs, conduire la langue ailleurs, proposer une lecture singulière qui ne tient pas forcément compte de l'histoire de tel ou tel objet, de tel ou tel contrée. Voilà, pour moi, c'est juste effectivement un support, un prétexte à partir duquel on va se laisser aller et produire.
En fait, au théâtre, on a rarement l'occasion de jouer les textes qu'on écrit, en fait. Et c'est ça aussi qui est bien avec cette expérience-là, c'est qu'on écrit nos textes et après, on les dit, on les joue devant un public. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est nos textes, c'est nous qui les avons écrits. C'est vraiment nous qui créons les choses de A à Z, quoi.
Mourad Loucif, je suis saxophoniste, clarinettiste et compositeur.
Vous inspirez des mots des narrateurs afin de créer des ambiances, de souligner les histoires contées.
C'est ça, c'est-à-dire que le mot pour moi est évocateur. Donc un mot en appelle un mot appelle une image appelle une autre image, et avec toutes ces associations, une sorte de ramification d'idées qui peuvent venir et créer des choses qui sont singulières en fait, qui appartiennent à chaque univers de la personne, puisque chaque mot génère un univers qui n'est pas nécessairement le même que chez une autre personne.
Dans un texte, vous êtes un peu la virgule et le point de chaque phrase.
Le point, la virgule, l'accompagnement, le soutien, le bac.
Ensuite, ligne mélodique portée, ligne de communication téléphonique, et pour finir, ligne d'arrivée.
Ce qui est intéressant dans cette transversalité, c'est que ce sont deux médias expressifs qui ont leur singularité, en fait. Et c'est intéressant de les faire se rencontrer parce que le mot nourrit la musique et la musique nourrit le mot aussi. Et je trouve que cette transversalité des médias artistiques est intéressante.
vous avez essayé de donner une couleur à l'objet et au texte, ou seulement au texte qui, lui, s'est inspiré de l'objet?
Ah oui. Qui est la source d'inspiration, en somme, l'objet ou le texte? Bah, en fait, ce sont des choses qui sont un peu intimement liées, et parfois l'un prend le dessus sur l'autre. Hein. C'est-à-dire que si l'objet n'est pas forcément très inspirant pour moi, le mot d'un des narrateurs va pouvoir générer une inspiration, une meilleure inspiration, et donc du coup ça va être le mot qui va prendre le dessus. Parfois c'est vraiment l'objet qui prend le dessus. Les choses un peu s'imbriquent et se précisent un petit peu, elles sont intimement liées, quoi.
Il y a aussi les lignes de la portée musicale, la ligne mélodique.
Faut, je pense, s'être intéressé à la question de la typologie des émotions, comment est-ce que ça s'articule en termes de matière sonore. À force finalement de pratiquer ce genre de choses, il y a comme une sorte de codification, la typologie en fait des émotions. Ce que je me demande, mais ce qui se fait finalement maintenant assez naturellement, c'est quoi l'ambiance? L'ambiance, c'est la narration, c'est un voyage, c'est burlesque, c'est dramatique, c'est triste. La musique a cette capacité justement de pouvoir traduire ses émotions, et donc il y a des modes de jeu qui sont plus appropriés pour certains contextes, certains climats, certaines émotions.
Le poétique, la poésie, c'est finalement quelque chose de très large, peut-être assez compliqué à définir. Quand c'est associé au domaine scolaire, on a tendance à focaliser sur l'aspect formel en fait, des textes produits. Ce qui m'intéresse, c'est que l'approche soit
celui qui écrit,
sensée, crée, sonore.
Et finit par y croire. Mais celui qui lit.
Et puis sensible.
Celui qui lit, c'est celui qui a l'âme. C'est celui qui a l'âme remplie. Celui qui a l'âme guérie.
Les êtres sociaux, sociables et sensibles. On est dans un monde, effectivement, où peut-être on s'isole de plus en plus, on se rencontre de moins en moins. Et ça me semble assez important de se retrouver dans des lieux comme ça. Pour partager, pour échanger, pour digresser, pour renouer avec notre facette sociale, sociable, sensible d'être humain. Ce qu'on a peut-être tendance à refouler parfois. Le fait de dire, de se dire à l'autre, c'est une façon d'exister au monde. Alors après, il y a se dire à l'autre, mais il y a aussi l'écouter en retour.
Et pour finir, la ligne d'arrivée.
La selle est laissée là,
sous-scellée. Et m'emmenait avec lui, afin de me retrouver une famille plus humble.
Pour elle, sans chamelle, ni chamelle.
Mais surtout plus juste, celui qui lit.
C'est tout simplement pour un animal triangulaire.
Celui qui lit, c'est celui qui a l'âme en vie.
Point à la ligne.